Alors, je suis chargé d'introduire les deux conférenciers qui vont nous accompagner jusqu'à l'oraison et les vêpres. Donc à 18h15, nous irons à la chapelle pour l'oraison, suivi des vêpres. Et puis donc en attendant, deux conférenciers, le père Jean-Louis Deloffre et le père Jean-Philippe Oudret, donc un prêtre diocésain et un religieux carme. Alors pour commencer, le père Jean-Louis Deloffre, prêtre du diocèse de Paris, professeur à la faculté Notre-Dame, les Bernardins, responsable aussi d'une maison de séminaristes à Paris. L'intitulé de la conférence, c'est donc « La sagesse d'amour », le chapitre de « Je veux voir Dieu », « Sa nature au regard de la Bible » et « Son influence pour l'âme en chemin vers Dieu ».
Merci beaucoup. Je vais donc ouvrir cette conférence et poser une problématique. Si la trajectoire de « Je veux voir Dieu » épouse celle du livre des demeures de Sainte Thérèse de Jésus, le père Marie-Eugène y fait un usage intensif de la Bible, et pour s'en convaincre, il suffit de tourner les pages de l'index scripturaire à la fin de l'ouvrage, index qui regroupe de très nombreuses références explicites de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il faudrait y ajouter les références implicites, nous en avons eu un petit exemple avec le père Jean-François Lefebvre ce matin. Donc il faudrait ajouter les références implicites, plus difficiles à énumérer certes, mais le lecteur familier de l'Écriture sainte percevra, comme les résonances du langage biblique que le père Marie-Eugène s'est approprié tout au long de son existence. Le cardinal Lustiger souhaitait que les prêtres parlent Bible comme leur langue naturelle, et le père Marie-Eugène est, à mon sens, un exemple des plus frappants. En effet, l'Écriture n'a pas dans « Je veux voir Dieu » une fonction illustrative. Elle n'est pas non plus évoquée comme preuve à l'appui dans un raisonnement théologique. Elle habite intimement la pensée de l'auteur, elle irrigue son maître ouvrage. Et pour en venir au sujet de cette communication, la sagesse telle que la Bible nous donne de l'approcher et de l'appréhender représente un fondement de cette pensée. Telle sera ma thèse principale. Le rôle capital que joue la sagesse dans « Je veux voir Dieu » se laisse facilement saisir dans le plan même de l'ouvrage. Référons-nous, par exemple, au tableau hors texte qui en offre une vue générale. Deux chapitres attirent plus particulièrement l'attention. À la fin de la partie grand 2, premières étapes, le chapitre 10, intitulé « Sagesse surnaturelle et perfection chrétienne », et le chapitre 1 qui commence la partie suivante, « Contemplation et vie mystique », intitulé quant à lui « La sagesse d'amour ». Il est remarquable que ces deux chapitres se situent au carrefour de deux grandes phases de la vie spirituelle que « Je veux voir Dieu » explore successivement, le secours général et le secours particulier. Dans la première phase, il est laissé beaucoup d'initiatives à l'homme en chemin vers Dieu, ses efforts étant récompensés par les facilités de recueillement qui distinguent les troisièmes demeures. Mais l'activité raisonnable qui domine encore n'est qu'un seuil ouvrant sur la deuxième phase, au cours de laquelle l'initiative revient cette fois-ci à Dieu. C'est là l'œuvre de la sagesse dite d'amour, je reviendrai sur cette expression, qui se fait prégnante pour former l'apôtre appelé à devenir saint dans le Christ total. Je vous renvoie à la cinquième partie, sainteté pour l'Église. Les titres des chapitres traduisent donc le rôle stratégique de la sagesse dont la présence et l'action caractérisent la partie la plus ample de « Je veux voir Dieu » qui regroupe les parties 3 à 5, ce qui représente à peu près 70% de la totalité du livre, c'est dire le passage obligé par ce vaste thème biblique. Un regard sur le terme « sagesse » dans la table analytique vient conforter cette première approche On y trouve en effet de très nombreuses entrées qui se rapportent d'abord à la nature de la sagesse, puis plus largement encore à son action, et enfin à la réponse de l'âme à sa sollicitation. Ces préalables étant posés, venons-en à une problématique plus précise, car j'aurais pu me contenter en effet de bâtir un exposé sur la sagesse dans « Je veux voir Dieu » selon une approche transversale de l'ouvrage, et pour cela la table analytique, qui est fort bien construite, aurait fait tout à fait l'affaire. J'ai plutôt l'ambition de revenir à la source, la Bible elle-même, ou comme nous allons le voir, la sagesse de l'Ancien comme celle du Nouveau Testament, plus encore peut-être, ne se laisse pas aisément saisir. Mais face à ce projet se pose une question de méthode. Le père Marie-Eugène ne mobiliserait-il pas la thématique de la sagesse à travers le prisme de grands mystiques ou théologiens, en particulier de saint Jean de la Croix, ou encore de tel ou tel commentateur de l'Écriture? Il me semble que, sans négliger nullement d'éventuelles sources d'inspiration, et une étude plus approfondie serait nécessaire, il me semble que l'exploitation des données bibliques dont je veux voir Dieu est le plus souvent de première main. À mon sens, le père Marie-Eugène, en tant que fin connaisseur de l'Écriture, a progressivement élaboré une théologie biblique originale, mettant en jeu la sagesse, et ceci de longue date. On pourra se reporter à l'enseignement qu'il a donné au Carmel de Lisieux, du 21 au 24 novembre 1927, « La sagesse s'est bâtie une demeure », ce titre étant une citation du livre des Proverbes, chapitre 9, verset 21. Mais je ne m'engagerai pas dans une étude diachronique de « Je veux voir Dieu », à regret, il est vrai. Mon propos consistera à explorer les résonances bibliques dans le texte de ce grand livre tel qu'il se présente à nous. Ma réflexion va se déployer en trois temps. En premier lieu, examiner la Bible pour elle-même et tenter une synthèse personnelle sur la sagesse afin de mieux percevoir, en second lieu, la convenance de ce thème multiforme pour comprendre et décrire le dessein divin sur l'homme selon l'itinéraire décrit dans « Je veux voir Dieu ». Ces deux moments seront complétés par un retour à la charnière entre secours général et secours particulier, notamment ce remarquable chapitre qu'est « La sagesse d'amour ». Au final, comment le père Marie-Eugène met-il en regard les textes bibliques? Comment, en les interprétant, explique-t-il la nature et l'influence de la sagesse sur l'homme en marche vers Dieu? Alors, le mot « influence » paraîtra peut-être un peu faible, puisque la sagesse cherche à soumettre l'âme à son emprise totale. Je propose d'entendre ce terme dans son sens étymologique, « influere », »,« couler dans », et ceci dans le contexte de « Je veux voir Dieu » jusqu'à l'inondation. C'est en effet à la perfection de l'amour pour Dieu et pour les âmes que convie l'entraînante et transformante sagesse d'amour. Alors, mon deuxième point, un panorama, je vous propose un panorama de la sagesse biblique dans l'un et l'autre testament. Avant d'aborder l'Ancien Testament, il convient de situer la réflexion sapientielle d'Israël dans le concert des sagesses qui étaient véhiculées dans les temps bibliques. Il est clair qu'Israël n'a pas le monopole de la sagesse. Si, en première approximation, la sagesse vue du côté de l'homme peut être définie comme un art de vivre et un chemin vers le bonheur, comment tout homme, tout fils d'Adam ne serait-il pas concerné? Le sage est celui qui acquiert une capacité à conduire droitement son existence dans le tissu complexe des relations et au gré de circonstances toujours changeantes. Il s'agit là d'une aspiration humaine qui est de tous les temps et de tous les lieux. La sagesse des peuples est avant tout pragmatique. Elle s'enracine dans le savoir-faire de l'agriculteur et de l'artisan, dans l'expérience des époux et des parents, du chef et de ses conseillers, ainsi que dans la pratique religieuse réfléchie. La sagesse, dans son acception la plus large, collecte le fruit d'une pratique décantée qui touche à tous les domaines de la vie, faisant l'objet d'une transmission d'abord orale d'un savoir de génération en génération, non comme un système intellectuel, mais comme un enseignement visant l'existence en ce qu'elle a de plus concret. La sagesse va de la pratique à la pratique. C'est pourquoi, chez les sages, la relation de maître à disciple est fondamentale. Écoute, mon fils, les leçons de ton père, ne néglige pas l'enseignement de ta mère, clame en ouverture le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 8. Entrer en sagesse, c'est d'abord écouter, se laisser instruire et corriger. Et c'est à ce prix que s'affermit l'intelligence et se clarifie la capacité au discernement. Le lieu de la sagesse, c'est la vie, tout simplement, en ce qu'elle peut avoir d'ailleurs de banal, de répétitif. La temporalité de la sagesse, c'est avant tout le long cours, la vie qui s'étire, mais qui est en même temps marquée inévitablement par l'épreuve, la souffrance et la mort. Et la sagesse ne contourne pas ces obstacles, ce sont des faits humains et en tant que tels, elle s'y frotte. Une première incursion dans l'Ancien Testament nous le montre sans peine. Parmi les grands livres de sagesse rangés selon la division tripartite de la Bible hébraïque, donc dans les Ketuvim, les écrits qui succèdent à la Torah et aux prophètes, nous trouvons Proverbes, Job et Coëlette. Quel contraste entre Proverbes, pour qui se mettre à l'écoute de la sagesse assure l'accès à l'arbre de vie, chapitre 3, verset 18, et le livre de Job, où le livre où le juste éprouvé, selon lui injustement, étend sa plainte amère à longueur de chapitre. Et que dire encore si l'on se tourne vers le livre de Coëlette, où la réflexion à première vue désabusée de l'auteur se confronte à un horizon borné par la mort. En fait, ces livres se complètent et se corrigent mutuellement, car l'ambition de la sagesse, c'est de parcourir les vastes étendues de la destinée humaine, ceci en enjambant les pièges de l'illusion et en se défiant des constructions idéologiques rassurantes. Dans ces livres, la vision n'est pas qu'à hauteur d'homme, loin s'en faut. Dieu y est bien présent, ainsi comme celui qu'il faut craindre dans le livre des Proverbes, dont la présence bienveillante se mue en hostilité pour être enfin accueillie dans sa réalité, c'est le livre de Job, ou encore dont la transcendance relative l'activité de l'homme établie sous le soleil, Coëlette. Bien plus largement, c'est le visage du Dieu créateur qui surplombe ses écrits de sagesse. La sagesse ne se réduit pas à un précipité de l'expérience humaine. C'est pourquoi une réflexion plurielle sur sa nature et son action vient étayer la conviction selon laquelle la sagesse vient de Dieu qui seul est sage. Cette réflexion se cristallise dans les grands poèmes de la sagesse tels que Proverbe 8, 22, 31, notre première lecture de la messe, et Siracide 24, où s'exprime à la première personne la sagesse personnifiée, ou encore dans le livre de la sagesse, chapitre 7, verset 22, jusqu'au chapitre 8, verset 1. Surgissent à la lecture de ces textes des questions de fond. Quelles sont les intentions du Dieu créateur? L'ordre qu'il a inscrit dans la création ne dirait-il pas quelque chose de sa volonté sur l'homme en quête de bonheur? Si, comme l'affirment les poèmes de sagesse, celle-ci est au plus près du Dieu créateur, alors, sans doute, elle est habilitée à éduquer l'homme pour qu'il entre en connivence avec Dieu qui a créé le cosmos avec justesse, avec poids et mesure, comme il est affirmé en Job 28-25 et Sagesse 11-20. Autrement dit, la sagesse réalise l'ajustement de l'homme à Dieu. Venant de Dieu, toujours en mouvement, éducatrice et nourricière, elle façonne tout fils d'Adam qui se livre à son action pour qu'il en vienne à égaler sa condition de créature voulue par Dieu, et ceci dans les moindres détails de sa vie. Nous voyons ainsi se déployer l'immense éventail de la sagesse. Elle est auprès de Dieu et elle vient chez les hommes pour les instruire, les diriger, les rendre justes, quoi qu'il en soit de leur position ou de leur fonction dans la société. Le plus humble paysan comme le roi sont appelés à devenir des sages. Il s'agit d'une caractéristique fondamentale de la sagesse biblique. Elle est médiatrice entre Dieu et les hommes. Il faut s'arrêter un moment sur la figure du roi dans la Bible. En principe, il n'exerce pas le sacerdoce et ne possède pas le don de prophétie. Son rôle est de diriger le peuple, d'en être le pasteur comme lieu tenant de Dieu. Il se doit d'être un médiateur visible entre Dieu et son peuple. Il lui faut posséder l'art du discernement afin de choisir les bons moyens pour gouverner avec justice et assurer la paix à son royaume. S'il est une figure singulière, chacun pourra se reconnaître en lui, car faire œuvre de sagesse, c'est bien gouverner sa propre vie, ce qui est déjà pas mal, sa famille, sa communauté. C'est pourquoi le comportement du roi est paradigmatique. L'exemple type du roi sage est Salomon, qui a demandé à Dieu un cœur qui écoute pour gouverner son peuple. Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 9. Dans la Bible, le cœur est le siège de l'intelligence spirituelle, le lieu du discernement et de la délibération. Un roi sage assurera à son peuple prestige et bonheur. Un roi fou, alors attention, l'antonyme n'est pas à entendre au sens pathologique du terme, mais au sens de celui qui est privé de sagesse, un roi fou conduira le peuple dans le chaos. Par l'exercice brillant de sa sagesse, Salomon représente en sa personne une sorte d'alliance entre Israël et les nations, ce qu'il complète par l'ampleur des relations commerciales qu'il institue avec les autres peuples et ses mariages diplomatiques, avec des filles de rois étrangers. Mais à la fin de sa vie, il fléchit. L'échec de la sagesse royale est patent. Son fils Roboam, décrit par Ben Sirac comme le plus fou du peuple, chapitre 47, verset 23, conduira à la division du royaume. Au fond, ce qui fait un bon roi, c'est la sagesse et rien d'autre. Faut-il encore que cette sagesse ne cesse d'être renouvelée par les canaux de la grâce divine? Sans la sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas, la sagesse humaine dépérit. La sagesse de l'Ancien Testament est essentiellement de création, a-t-il été dit, mais du fils d'Adam, il nous faut passer au fils d'Israël, dont l'existence historique est marquée du sceau de l'Alliance. En son cœur résonne le Shema Israël, qui lui intime d'aimer sans réserve ce Dieu qu'il a fait sortir du pays d'Égypte avec ses pères et lui a donné une terre conformément aux promesses faites aux patriarches. Nous rejoignons ainsi le vaste champ d'une histoire informée par l'élection et donc au destin singulier d'un peuple néanmoins interpellé par la sagesse qui, par nature, est universelle. Alors les sages se sont penchés sur ce croisement entre le particulier d'Israël et l'universel de la sagesse. Et leurs réponses sont multiples. Pour Ben Sirac, la sagesse qui vient d'auprès de Dieu et qui couvre toute la terre se concentre en Israël, d'où elle étend ses pampres gracieux, Siracide 24, sa meilleure expression étant la Torah. Donc, chapitre 24, verset 23. Pour Baruch, l'infidélité même d'Israël au Dieu de l'Alliance est à ressaisir dans une réflexion sapientielle. L'exil a été la conséquence de l'éloignement du peuple de la source de la sagesse à laquelle il faut revenir par la pratique de la Torah. Là encore, comme dans le livre du Siracide, il s'agit de Baruch 3:9-4:4. Le livre de la sagesse, quant à lui, offre un autre regard, puisque la sagesse dite explicitement salvatrice en Sagesse 9:18 œuvre dans l'histoire revisitée d'Adam à la sortie du pays d'Égypte, Ce sont les chapitres 10 à 19 de ce grand livre, y révélant la face d'un Dieu clément qui, en ses jugements, reste attentif à toutes ses créatures, les justes comme les impies. Ainsi donc, la sagesse unit deux grandes réalités, la création et l'histoire. Elle est une instance qui actualise les lois inscrites par Dieu dans la création, tout en acheminant l'homme dans l'histoire du salut conformément à sa vocation. Dans l'Ancien Testament, la condition de créature se conjugue avec la destinée historique d'Israël d'abord, des nations ensuite, qui sont en attente de rédemption. Alors, ce premier parcours, très dense, je le reconnais, dans l'Ancien Testament, fait percevoir l'ampleur de l'action de la sagesse. Du plus concret de la vie de l'homme aux hauteurs célestes, elle habite l'espace et le temps de la création, assurant la médiation entre Dieu créateur et rédempteur d'une part et la créature objet du salut d'autre part. Ainsi, nous pouvons passer au Nouveau Testament. Pour ce qu'il en est de la sagesse, la difficulté, c'est que nous en perdons, pour ainsi dire, la trace. Dans les écrits néo-testamentaires, le vocabulaire de sagesse est toujours présent en quelques touches disséminées, mais la saisie, l'identification de la sagesse est un problème complexe. Dans une contribution à un congrès biblique en 1993, congrès consacré à la sagesse biblique, Jean-Noël Aletti a soulevé la question suivante. Pourquoi le Nouveau Testament n'a-t-il pas explicitement affirmé que Jésus-Christ est la sagesse éternelle de Dieu, alors que les pères de l'Église et d'autres théologiens l'ont dit sans hésitation? Pour Jean-Noël Aletti, il faut aller à la racine des silences. Une brève approche par le prologue de l'Évangile selon saint Jean et d'une hymne paulinienne, l'hymne aux Colossiens, amorcera la discussion. Le prologue du quatrième évangile montre des affinités avec la littérature sapientielle de l'Ancien Testament et tout particulièrement Siracide 24. Les trajectoires du logos joannique et la sagesse personnifiée chez Ben Sirac sont similaires. La proximité de Dieu à l'origine, la saisie de l'univers entier, la descente et la concentration en Israël en vue d'une expansion ultérieure. Mais d'emblée, saint Jean affirme que le Logos était Dieu, ce que l'Ancien Testament n'a jamais aussi explicitement avancé au sujet de la sagesse. Nous ne sommes donc pas dans l'ordre d'une identification entre Logos et sagesse vétérotestamentaire, mais bien plutôt d'un débordement des données vétérotestamentaires, d'un surcroît de révélations. Dans l'Ancien Testament, la sagesse, pourrait-on dire, comme instance médiatrice entre Dieu et les hommes, prépare le chemin du Logos qui se fait chair et plante sa tente parmi nous. Autre exemple, l'hymne aux Colossiens. Donc c'est Colossiens 1, 12, 20. Là encore, la médiation créatrice et rédemptrice du Christ n'est pas sans rappeler la position de la sagesse auprès de Dieu antérieurement à la création, comme en Proverbe 8, 22 ou Sagesse 7, 21, 26. Mais l'Ancien Testament n'a jamais avancé que la création avait été faite pour la sagesse, comme Paul l'atteste au sujet du Christ. Tout a été créé par lui et pour lui, et il est lui par devant tout, tout étant maintenu en lui. Donc Colossiens 1, 16, 17. Alors que la sagesse de l'Ancien Testament est subordonnée à Dieu, qu'elle est en quelque sorte sa messagère et l'agent de ses œuvres de justice et de salut sur la terre, le Christ, selon saint Paul, possède un rang éminemment supérieur, puisque, en tant que Fils, il est à l'origine du tout créé et en est le destinataire. Un texte du corpus paulinien semble cependant prêter le flanc. Il s'agit de la première lettre aux Corinthiens, donc chapitre 1, verset 17 à 2, 16. En 1, 25, nous lisons en effet « Il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Alors l'identification du Christ et de la sagesse semble donc s'imposer. Cependant, une exégèse de l'ensemble du texte montre que tel n'est pas l'objectif de l'affirmation de Paul. Il rappelle aux Corinthiens qu'il leur a fait connaître un Messie crucifié et que la parole prêchée a fait son effet dans une communauté de gens méprisés aux yeux des sages de ce monde, ce qui est une démonstration, dit-il, d'esprit et de puissance, en 2.4. Le propos porte sur la performativité d'une prédication qui met en déroute la sagesse du monde présent et dévoile la nature du sage dessein salvateur de Dieu, moyennant la croix du Christ. Dans le propos de saint Paul, ce dessein implique tout à la fois le Christ et l'Esprit. La mention de l'Esprit dans le texte qui vient d'être évoqué invite à s'interroger sur une possible identification entre la sagesse de l'Ancien Testament et l'Esprit Saint. Saint Irénée l'a fait, par exemple. Donc, et cette sagesse dont le dynamisme et l'effet transformant n'est pas sans rappeler les caractéristiques de la sagesse vétérotestamentaire. Sans entrer dans les détails, il n'y a pas, à ma connaissance, de texte qui permettrait d'aller dans le sens d'une identification formelle. En guise de conclusion pour cette partie, disons que ce n'est pas parce que la sagesse de l'Ancien Testament est personnifiée qu'elle est une personne divine. Ses prérogatives sont attribuées dans le Nouveau Testament au Christ et à l'Esprit, selon une logique de dépassement, de surabondance. Si le Nouveau Testament parle encore de sagesse, c'est comme dans l'Ancien Testament pour qualifier le dessein de Dieu qui touche la création tout entière et oriente l'histoire des hommes. Mais le mystère pascal a porté ce dessein à son accomplissement et il continue à se déployer par et dans l'Église, le Père agissant, comme le dit saint Irénée, par ses deux mains, le Fils et l'Esprit. Donc c'est dans « Contre les hérésies », partie 5, 6a. Je passe ainsi à ma troisième partie. La convenance de la sagesse de l'Ancien au Nouveau Testament pour la visée de « Je veux voir Dieu ». La vue générale sur la sagesse qui vient d'être présentée va permettre de mesurer en quoi la sagesse biblique convient à la visée d'ensemble de « Je veux voir Dieu » et ceci à plusieurs titres. Premier point, « Je veux voir Dieu comme enseignement pratique ». Le père Marie-Eugène énonce la nature de son projet dans l'avant-propos de la première édition. Les conférences qu'il a commencé à donner sur l'oraison s'adressaient à un auditoire qui, dit-il, je cite, manifestait un goût marqué pour un enseignement pratique et vivant, pour un témoignage simple et authentique d'une doctrine vécue. Cette doctrine vécue, c'est celle des maîtres du Carmel, mais c'est aussi, à n'en pas douter, celle de l'auteur lui-même. Il y a là une première consonance avec la sagesse qui va, comme je l'ai dit, de la pratique à la pratique. Une somme d'expériences réfléchies à l'aune d'une anthropologie et d'une théologie spirituelle consistante, a donné naissance à un enseignement complet et nourrissant pour ceux qui sont désireux d'avancer eux-mêmes dans la pratique de la prière. Comprendre l'enjeu de l'oraison, se comprendre soi-même, reconnaître les étapes de la vie spirituelle et savoir s'y conduire, choisir les bons moyens pour persévérer et avancer, discerner les pièges et résister aux tentations, tout cela exige qu'on se mette à l'écoute, qu'on se laisse instruire, bref, qu'on devienne le disciple de maître qualifié, et cette attitude relève de la sagesse. Deuxième point, la sagesse convient à l'ampleur de l'itinéraire décrit dans « Je veux voir Dieu ». Au point de départ, le père Marie-Eugène se fonde sur l'objectivité de la présence divine dans le centre de l'âme, puis il décrit chacune des étapes de la vie spirituelle, montrant ce qui les qualifie, indiquant la conduite appropriée pour s'y orienter. Mais on n'en reste pas, loin s'en faut, à une vision individuelle de l'intériorité. La perspective se fait en effet de plus en plus large. Ce qui est visé, c'est la sainteté pour l'Église, c'est le saint dans le Christ total. Et cette vision récapitulative et récapitulatrice nécessite l'ajustement du disciple au dessein total de Dieu qui est aux dimensions de l'universel, ce qui est en harmonie avec la sagesse biblique qui désigne l'activité de Dieu sur le plan de la création tout entière. L'hymne aux Éphésiens, d'ailleurs, toute pétrie d'expressions sapientielles, l'exprime au mieux. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Éphésiens 1:4. Origine et fin sont ici conjuguées. La sagesse est à la mesure de cette extension et en sa qualité de médiatrice, elle est appropriée à la saisie et à la transformation de l'homme en marche vers ce Dieu qui l'habite et l'attire. Troisième point, l'affinité du langage de « je veux voir Dieu » avec celui de la sagesse biblique. Hormis le vocabulaire qui relève directement du registre sapientiel, sagesse, folie, intelligence, discernement, que nous trouvons dans « je veux voir Dieu », il y a des mots et des expressions qui sont corrélatifs à ce registre. Un exemple parmi d'autres, le vocabulaire de la royauté, du royaume et du règne, qui revient souvent dans « Je veux voir Dieu » mérite d'être examiné. J'ai évoqué le roi Salomon comme support de la sagesse en tant qu'il reçoit de Dieu la faculté de gouverner un peuple nombreux. Il y a bien une affinité entre sagesse et royauté dans la mesure où régner suppose un discernement des situations, un choix et une maîtrise des moyens adaptés pour atteindre l'ordre nécessaire à la paix. Mais la royauté terrestre est à l'image de la royauté de Dieu, à qui est soumise toute la création. Cette royauté divine est évoquée dans « Je veux voir Dieu » dès le départ, à travers la vision de Thérèse de Jésus. Je cite « Au centre du château, c'est là qu'est la demeure, le palais où habite le roi », avec un R majuscule. On trouve par ailleurs des mentions du règne dont je veux voir Dieu, des mentions du règne de la sagesse, du règne de l'amour, du règne du Verbe, du règne de l'Esprit Saint. Quant à l'homme, il est destiné à participer au règne de Dieu, et le Père Marie-Eugène fait à ce sujet l'une des rares citations du livre de l'Apocalypse, « À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et prêtre de Dieu son Père, à lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. » La thématique du règne s'enracine certes dans la vision du château intérieur, mais elle est en pleine cohérence avec la ligne de fond de la sagesse dont l'action transformante conduit l'homme à sa perfection pour le faire participer au règne de Dieu sur l'univers. On pourrait prolonger cette analyse par l'étude du vocabulaire de la mise en ordre, de la vertu, de l'enrichissement ou encore de la suavité, un terme que le père Marie-Eugène affectionne particulièrement. C'est un terme sapientiel. Alors concluons cette partie. La thématique de la sagesse biblique que j'ai tenté de cerner dans la section précédente est en grande affinité avec la dynamique d'ensemble de « Je veux voir Dieu ». En effet, le père Marie-Eugène construit son ouvrage dans le souci de rejoindre le plus concret de la vie spirituelle, qui est une participation de plus en plus profonde à l'œuvre divine qui soulève toute la création. Comme il en est pour la sagesse biblique, deux extrêmes sont conjoints. D'une part, sur le plan pragmatique, le conseil qui éclaire l'homme dans sa vie spirituelle au jour le jour, et d'autre part, la plus haute connaissance de Dieu et de son dessein d'amour. Je veux voir Dieu se présente ainsi comme une mise en abîme. Le père Marie-Eugène, mu par la sagesse d'amour, compose une œuvre de sagesse où il dépeint la sagesse à l'œuvre. J'en arrive maintenant à la quatrième partie. Retour sur la charnière entre secours général et secours particulier, la sagesse d'amour. En revenant à la jonction entre la deuxième et la troisième partie de « Je veux voir Dieu », nous allons voir avec plus de précision ce qu'est l'exégèse du père Marie-Eugène à partir de quelques textes de sagesse importants. Un bref regard tout d'abord sur le chapitre « Sagesse surnaturelle et perfection chrétienne » qui conclut donc la deuxième partie de « Je veux voir Dieu ». Dans ce chapitre, on se situe dans les troisièmes demeures de l'itinéraire thérésien. La raison est encore très maîtresse d'elle-même, alors que la perspective, c'est la folie de la croix. À ce sujet, le père Marie-Eugène cite longuement le texte de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens qui a été évoquée plus haut, 1 Corinthiens 1, 17, 2, 5. Énonçant ensuite trois ordres de sagesse, la loi morale naturelle, la connaissance par révélation de la fin surnaturelle de l'homme et l'exercice des vertus théologales en vue de la perfection, il identifie la sagesse caractéristique des troisièmes demeures. Ce n'est certes pas la sagesse du monde dénoncée par saint Paul, mais dans les troisièmes demeures, on en reste en fait au deuxième ordre de la sagesse, la raison étant la mesure de l'activité des vertus qui demeurent de ce fait imparfaites. Comme le dit le père Marie-Eugène, je cite, « Le bel ordre extérieur », attendez le mot « ordre », c'est un mot qui relève du registre sapientiel, hein, « le bel ordre extérieur et la vertu surnaturelle que la raison éclaire et inspire ne sont point la perfection. Il faut l'amour qui fait délirer la raison et la soumet à la lumière et à l'emprise de l'Esprit Saint. » Nous passons ainsi à la grande phase du secours particulier avec le chapitre « La sagesse d'amour » qui inaugure la troisième partie « Contemplation et vie mystique ». Arrêtons-nous tout d'abord sur l'expression « sagesse d'amour ». Elle n'est pas scripturaire. On ne la trouve pas non plus telle qu'elle chez saint Jean de la Croix, où l'association des termes « sagesse » et « amour » est pourtant assez courante. Le père Marie-Eugène explique, donc c'est à la page 297, ancienne édition hein, de « Je veux voir Dieu », que c'est le Nouveau Testament qui suggère cette expression, car toutes les œuvres de la sagesse y sont inspirées par l'amour. Je cite, « Son œuvre sanctificatrice en nous est hautement une œuvre d'amour, et l'étreinte par laquelle elle nous saisit, la sagesse, nous embrasse pour nous faire entrer dans la Trinité des personnes divines, est excellemment une étreinte d'amour. Pour désigner cette sagesse ouvrière d'amour, nous l'appellerons sagesse d'amour. » Deux sous-parties dans ce chapitre, la sagesse d'amour, vont éclairer premièrement la nature, puis, deuxièmement, l'action de la sagesse d'amour. Qu'est-ce que la sagesse d'amour? Alors le père Marie-Eugène s'appuie en premier lieu sur l'Ancien Testament et cite de très nombreux textes. En premier lieu, les grands poèmes de la sagesse dont il a été question dans la deuxième partie de mon exposé. Ainsi, Proverbes 8, 22, 31 en entier. Puis, deux brefs extraits de Sagesse 7, dont un verset phare, le verset de l'Ancien Testament le plus cité dans « Je veux voir Dieu », je cite, « C'est elle, en effet, qui, se répandant à travers les âges dans les âmes saintes, en fait des amis de Dieu et des prophètes. » Vient à nouveau encore le chapitre 7 de la Sagesse, du livre de la Sagesse, longuement cité. La sagesse étant magnifiée dans sa fluidité, sa proximité d'avec Dieu et sa beauté. Puis, le début de Sagesse 8, exprimant la quête de Salomon, suivi d'un extrait du chapitre 9, faisant entendre sa prière pour obtenir la sagesse. Le parcours scripturaire se poursuit avec un retour sur Sagesse 6, suscitant le désir de la sagesse et une brève évocation des chapitres 10 à 19, où est décrite son action dans l'histoire. L'infidélité d'Israël est ensuite mentionnée avec des extraits des chapitres 3 et 4 du livre de Baruch. Alors ce florilège de citations montre à l'évidence la familiarité du père Marie-Eugène avec la sagesse de l'Ancien Testament. En combinant ces citations, il met en relief la sagesse comme créatrice et directrice des âmes en vue de la réalisation de la sainteté en elle. Il en dit la force et l'éclat, ce qui la rend désirable. C'est pourquoi il faut la demander et ne pas l'abandonner. À partir de l'Ancien Testament seulement, nous le voyons, un riche enseignement sur la nature et le rôle de la sagesse est déjà délivré. Une phrase de transition fait basculer ensuite dans le Nouveau Testament. je cite, « Cette sagesse de la loi ancienne est entrée dans l'économie de la loi nouvelle. Elle a pris possession de l'Église et des âmes et elle y continue son action bienfaisante. » Un peu plus loin, le père Marie-Eugène affirme audacieusement, je cite, « La sagesse d'amour unit l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le nom divin qui exprime toute l'œuvre réalisée par Dieu dans l'homme et pour l'homme depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. » Cette insistance sur la continuité entre les deux testaments par le biais de la sagesse est remarquable. Tout comme est originale la désignation de la sagesse comme nom divin. Il s'agit de Dieu en tant qu'il peut être connu et invoqué, mais pas uniquement selon une conception ontologique, puisque le nom de Dieu dit aussi son action. Ainsi, lorsque dans l'épisode du buisson ardent, Dieu révèle son nom à Moïse, il n'énonce pas seulement ce qu'il est en lui-même, il manifeste aussi son action salutaire en faveur de son peuple. Exode 3, 14, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. » C'est précisément ce qu'exprime le père Marie-Eugène, la sagesse d'amour, ouvrière de sainteté, récapitule l'œuvre de Dieu dans l'homme et pour l'homme depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Autre point important développé par le père Marie-Eugène, je cite, « La sagesse d'amour n'est point à proprement parler une personne divine. Elle est à la fois les trois personnes, toute la Trinité qui habite en notre âme et dont l'opération unique, se répandant dans les âmes, en fait des amis de Dieu et des prophètes. » Sagesse 7, 27. Cette affirmation corrobore ma propre conclusion sur la sagesse dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas lieu d'identifier formellement la sagesse avec le Verbe ou l'Esprit. La section suivante de la sagesse d'amour, du chapitre donc, pose la question « Que fait la sagesse d'amour ?» Alors, les citations scripturaires y étant plus rares, je me contente simplement d'en faire un bref résumé. Alors, la sagesse d'amour ordonne et dispose tout pour la réalisation du dessein de Dieu qui est l'Église, et chacun a sa place dans ce dessein qui sera mené à bonne fin avec ou contre nous, nous dit le père Marie-Eugène. L'excellence de cette œuvre dépasse tellement l'homme que la sagesse d'amour doit intervenir directement dans les âmes, les menant dans des régions obscures qui sont le lieu de son règne et où l'homme a besoin d'être guidé. Cette sagesse est toute d'amour et l'amour ne peut que se répandre incessamment dans la joie, mais l'homme inadapté, envahi par ce flot, connaît la souffrance. Néanmoins, le mouvement de la sagesse ne s'arrête pas dans l'âme. Elle veut en faire l'instrument de la diffusion de l'amour. C'est le fondement de l'apostolat, de l'action dans et pour l'Église. Le père Marie-Eugène termine en insistant sur le rôle englobant de la sagesse d'amour, puisqu'elle concerne le Christ lui-même. C'est une citation qui a déjà été faite. Je cite donc, « Le chef-d'œuvre de cette sagesse d'amour était incontestablement l'humanité sainte du Christ, l'incarnation, le calvaire, l'Eucharistie, tels sont les plus beaux triomphes de la sagesse d'amour. Ces triomphes, elle aspire à les renouveler dans les âmes. » Je conclus cette partie. Dans les troisièmes demeures, l'action de la sagesse est freinée par l'autonomie de la raison. Le rôle de la sagesse d'amour est de pousser l'homme hors de son monde ordonné et contrôlé pour l'engager à prendre résolument sa part dans la réalisation du plan de Dieu, l'Église, ce qui, sans le secours particulier, ne serait pas à la portée de l'homme. Nous avons vu comment le père Marie-Eugène s'y prend dans le chapitre que nous venons de lire. Il retrace la vaste perspective du dessein divin par les textes de sagesse de l'Ancien Testament qui dépeignent l'intime proximité entre Dieu et la sagesse, en décline les qualités ainsi que la visée et les faits, la sainteté, notamment par l'une de ses citations favorites, Sagesse 7, 27. Remarquons la disproportion entre les citations de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour le Nouveau Testament, il n'y a guère que Éphésiens 1, 9, 10 qui affirme la récapitulation de toutes choses dans le Christ qui puisse être relevé. Et cette disposition inégale correspond à celle de la Bible. On parle beaucoup de sagesse dans l'Ancien Testament et peu dans le Nouveau. Eh bien, c'est la même chose dans notre chapitre. Ne pourrait-on pas considérer donc le chapitre comme un petit compendium de la sagesse biblique? L'Ancien et le Nouveau Testament sont traversés par la splendide mobilité de l'infini et l'infinie vigueur de la sagesse artisane. Même la nouveauté radicale de l'humanité du Christ est au compte de ses œuvres. Ce que cherche à mettre en relief le père Marie-Eugène par les textes sapientiaux qu'il convoque, c'est l'unique dessein de Dieu, saisi dans une vision récapitulatrice, dessein auquel l'homme est appelé à collaborer en se soumettant à l'action conquérante de la sagesse. On ne peut mieux dire la grandeur de la vocation de l'homme, la gravité de sa responsabilité et la merveille qu'est le fruit de sa réponse. Conclusion générale. Le père Marie-Eugène est un remarquable lecteur et interprète de l'Écriture sainte. En choisissant la sagesse biblique comme axe majeur de son enseignement, il manifeste une maîtrise, et je dirais même une certaine virtuosité, sur un thème biblique particulièrement ardu. À l'époque où le père Marie-Eugène écrivait, les textes sapientiaux n'étaient pas aussi connus que de nos jours. Dans l'histoire de l'exégèse, depuis le milieu du XIXe siècle, les livres de sagesse ne tenaient pas une grande place. Alors, les choses ont changé. La recherche exégétique actuelle s'attelle à l'étude de ces livres de sagesse et une tendance qui se dégage, c'est de voir la sagesse comme une nappe de fond, tout au moins pour le corpus vétérotestamentaire. Ce qui rejoint d'ailleurs la vision récapitulatrice du père Marie-Eugène, et cette vision est bien plus qu'une intuition, comme le montre la mise en œuvre de nombreux textes qu'il choisit et articule pour en faire le cœur de son enseignement. Mais le père Marie-Eugène n'est pas non plus un exégète de profession. S'il lit et interprète la Bible, c'est en tant que maître spirituel et en vue d'une application. La pratique de l'oraison, la conduite des hommes assoiffés de Dieu vers les sources pures de la sainteté et corrélativement vers l'apostolat le plus fécond. En ce sens, le père Marie-Eugène est un authentique théologien. Faisant sien l'adage consacré par la constitution conciliaire Dei Verbum, selon lequel l'étude de l'Écriture sainte doit être comme l'âme de la théologie, il a conçu un enseignement pratique et vivant, une doctrine vécue qui est un monument de la théologie spirituelle et qui, comme telle, appartient au bien commun de l'Église. Merci.
Merci de ce vaste et bref panorama. Il nous reste quand même quelques minutes pour quelques questions et réactions.
Ce livre de « Je veux voir Dieu ».
Oh. Alors, là, c'est un témoignage personnel. Eh bien, figurez-vous que c'est un bénédictin qui me l'a fait connaître, qu'il y avait, alors, il y a de ça 20, presque 30 ans, dans une liste de livres, parce que j'avais soif de lecture à l'époque, hein, il y a le chapitre dans « Je veux voir Dieu » sur la lecture, et parmi ça, il y avait « Je veux voir Dieu ». Donc j'ai acheté le livre, je l'ai feuilleté, j'en ai tiré ce que j'ai pu, et puis ensuite j'ai été, bien des années après, lorsque j'étais séminariste, aidé par un bon connaisseur de « Je veux voir Dieu » qui s'appelle Pierre Dornelas. Voilà, vous voulez savoir. Et je n'ai jamais cessé de lire « Je veux voir Dieu ». Mais voyez néanmoins... Ce chapitre sur la sagesse d'amour avait toujours un peu attiré mon attention. Alors, il s'avère que j'enseigne la sagesse dans ma faculté de théologie. C'est un sujet difficile, c'est un sujet très difficile. Hein. Moi, j'ai mis 15 ans pour m'y retrouver, à peu près, hein, et en ayant reçu un enseignement sérieux pendant ma théologie, etc., etc. Et puis... Il n'y a rien à faire. Je trouvais que ce chapitre sur la sagesse d'amour correspondait bien, au fond, au mouvement des données bibliques. Vous voyez, Quand je parle de compendium, je crois qu'il y a effectivement là un petit compendium de ce qu'est la sagesse biblique. Il y a, chez le père Marie-Eugène, une connaissance de ces textes qui n'est vraiment pas commune. Vous voyez, l'affirmation selon laquelle c'est la sagesse qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il faut se rendre compte de la portée de cette affirmation. Mais c'est considérable. On retrouve une idée, une pensée comme celle-là, mais évidemment, dans un univers très complexifié aussi, chez Paul Beauchamp. Et l'une de mes ambitions à l'avenir, c'est d'essayer de faire un rapprochement, justement, entre la pensée du père Marie-Eugène et puis l'exégèse du père Beauchamp, qui intervient beaucoup plus tard. Mais ce qui m'a toujours stupéfié, c'est le fait qu'à l'époque où il écrit, comme je dis, il n'y a pas vraiment d'exégèse sur ses livres. Je vais vous donner un exemple. On connaît la fameuse théologie de l'Ancien Testament de Gerhard von Rath. Eh bien, Gerhard von Rath, quand il a écrit cette théologie de l'Ancien Testament, lui a fait remarquer qu'il n'avait pas parlé de la sagesse. Et c'est pour cela qu'il a fait un autre petit livre qui s'appelle « La sagesse d'Israël », qui est tout à fait remarquable. Mais c'est quelque chose qui n'habitait pas les théologiens. Alors comment est-ce que le père Marie-Eugène a mis ça au cœur de « Je veux voir Dieu » ? Moi, une autre ambition, si vous voulez, ça serait vraiment de faire une étude diachronique. C'est-à-dire, ça fait longtemps que j'en ai parlé à mes frères, amis de l'Institut, mais ça serait vraiment d'aller voir comment il a cristallisé sa pensée autour de la sagesse. C'est parce que la synthèse qu'il fait est tout à fait remarquable. Et elle est mise au service d'un dessin pratique. J'ai bien insisté là-dessus. Il y a une application. Ce n'est pas de la théologie spirituelle en chambre. C'est vraiment quelque chose qui débouche sur un enseignement concret. Alors, il aurait fallu que je complète, par exemple, aussi avec le chapitre sur les dons du Saint-Esprit, parce que c'est corrélatif entre sagesse d'amour. Il faut lire le chapitre suivant. Mais vous voyez, après, la conduite de l'âme dans les différentes demeures, de la quatrième là jusqu'à la fin, on va trouver des conseils pratiques. Donc il va y avoir toujours ce souci chez le père Marie-Eugène de donner un enseignement pratique, d'aller au concret. C'est une attitude profondément sapientielle. Et donc il y a chez lui la plus haute connaissance théologique, si l'on peut dire, et puis en même temps ce souci de guider les âmes. Ça c'est tout à fait remarquable. Et ça fait, à mon avis, à mon humble avis, de « Je veux voir Dieu » une œuvre vraiment tout à fait unique.
C'est par rapport au silence du Nouveau Testament sur la sagesse. Est-ce que quand même il n'y a pas quelque chose avec toutes les paroles de sagesse de Jésus? Pensons au serment sur la montagne, il y a plein. Donc du côté du Christ, et qui du coup manifeste quelque chose de Jésus comme le sage par excellence. Et puis d'autre part, du côté de l'Esprit Saint, le rôle de l'Esprit Saint dans les actes des apôtres, surtout dans la deuxième partie. Je ne sais pas. Alors du coup, est-ce qu'on ne peut pas équilibrer cette idée d'un silence dans le Nouveau Testament par rapport à la sagesse par tous ces lieux où la sagesse ne s'exprime pas? Il n'est pas dit clairement que c'est la sagesse.
Voilà, je suis
d'accord.
Voilà.
Mais est-ce qu'on n'y retrouve pas tous les attributs de l'accomplissement, plutôt, des attributs de la sagesse dans l'Ancien Testament?
La problématique qu'a soulevée Jean-Anel Aletti, c'est sur la question de l'identification formelle. C'est-à-dire, dans le Nouveau Testament, Jésus ne dit pas « Je suis la sagesse venue de Dieu ». Il dit des tas de choses. Dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, il dit « Je suis la lumière, je suis le pain de vie, je suis, je suis, je suis ». Donc on peut suivre toute la série. Il ne dit jamais « je suis la sagesse ». C'est quand même tout à fait étonnant. Alors après, que Jésus soit un maître de sagesse, c'est tout à fait clair. Tu prenais les béatitudes, bien sûr. Heureux, c'est une expression sapientielle par excellence. Dans les heureux de l'Ancien Testament et les heureux du Nouveau Testament se complète parfaitement. Mais il est maître de sagesse, il est le sage par excellence. C'est tout à fait clair. Mais peut-on dire pour autant que Jésus est la sagesse dont parle l'Ancien Testament? On voit que le père Marie-Eugène englobe l'humanité du Christ à l'intérieur de l'œuvre de la sagesse. C'est tout à fait remarquable ce qu'il dit, le chef-d'œuvre de la sagesse. Je trouve que c'est très audacieux, hein. C'est très très audacieux. C'est-à-dire, la sagesse, hein, c'est vraiment la totalité du dessein de Dieu, vous voyez, qui soulève la création pour l'amener à lui, et cela, le Père le fait avec ses deux mains. Mais effectivement, du côté de l'esprit, on pourrait aussi trouver un certain nombre de données qui correspondent aux prérogatives de la sagesse, c'est clair. Hein. Mais le piège, à mon avis, c'est de dire que c'est l'un ou l'autre. Et le piège, c'est de faire une espèce d'équation, en particulier en se basant sur la sagesse personnifiée. Comme je l'ai dit, la sagesse personnifiée, c'est d'abord un procédé littéraire dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas parce que la sagesse dit « je » qu'elle est automatiquement à identifier avec le verbe ou l'esprit. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que dans l'économie du Nouveau Testament, Jésus est en corrélation, c'est peu dire, mais est en communion directe avec l'esprit. Donc il faut réfléchir, Jésus est l'esprit. Jésus, et les textes sont nombreux. Hein, on a le baptême, on a la tentation au désert. Dans l'évangile de Saint-Luc, Jésus tressaillit sous l'action de l'esprit. « Je te bénis, Père », etc. Hein, donc, je crois qu'il faut réfléchir sur ces deux angles-là, à la fois, et éviter de faire une identification sous forme d'équation. Et ça nous permet, je crois, d'aller un peu plus, de lire les textes un peu plus dans la nuance.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre, un autre axe qui pourrait ouvrir encore une autre réflexion? C'est les appropriations qui sont faites et qui sont, me semble-t-il, assez fréquentes chez le Père Marie-Eugène, puisque, surtout vers la fin de sa vie, il disait de l'Esprit-Saint ce qu'il disait beaucoup à une autre époque antérieure. Et c'est une chose qui est traditionnelle, hein, dans la théologie catholique, c'est-à-dire ces appropriations d'une activité qui est de Dieu et qui, en fait, est appropriée à une des personnes à cause des missions qui sont réalisées. Alors, est-ce que tu as trouvé dans le Père Marie-Eugène et même dans Je veux voir Dieu ce type d'appropriation,
oui,
passant de la sagesse d'amour à l'Esprit-Saint ou même au Christ?
Oui, une fois ou deux. Hein. Une fois ou deux, notamment une fois, je crois, avec le Verbe. Mais c'est très clair ce qu'il dit quand même dans le chapitre sur la sagesse d'amour. Il dit non, c'est pas une personne. Hein. Il parle de nom divin. Alors, c'est quand même très très intéressant. Mais je pense qu'il faudrait vraiment faire l'étude diachronique. Parce que dans l'enseignement qu'il donne en 1927, là, il y a une identification très claire. Il dit, la sagesse, c'est le Verbe. Il le dit tout à fait clairement. Dans Je veux voir Dieu, et bon, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, hein, depuis. Enfin, il faudrait remonter un peu le cours des conférences. Là, il dit, non, ce n'est pas une personne divine. Hein, c'est les trois en même temps, bon, etc. Vous avez vu un peu l'explication qu'il donne et qui est tout à fait originale. La question du nom divin est tout à fait originale. On trouve effectivement une petite touche quelque part. Remarque quand même que quand dans la sagesse d'amour, il commente Proverbe 8, il dit carrément « la sagesse était Dieu ». C'est-à-dire, il applique là ce qui est écrit dans le prologue de saint Jean. C'est quand même étonnant, c'est-à-dire à la fois il y a appropriation et non-appropriation. Donc on voit que, je ne vais pas appeler ça une hésitation, mais enfin tout un jeu de nuances qui nous montre à quel point le problème est difficile, d'une part, et à quel point il peut y avoir une évolution de la pensée. Je trouve déjà qu'entre 1927 et Je veux voir Dieu, il y a une grande évolution de la pensée, qu'il a beaucoup travaillé cette thématique de la sagesse biblique. Ça, j'en suis persuadé. J'espère pouvoir le montrer de façon un peu plus précise. Mais ensuite, que vers la fin de sa vie, à l'aune de son expérience spirituelle, ça, je crois que c'est ça le point important, qu'à l'aune de son expérience spirituelle, il se soit rapproché un peu de la tendance, je dirais, d'être dans la tendance Saint-Irénée. Sur une identification sagesse-esprit.
Oui, sauf que ça ne s'oppose pas.
Non.
Jamais. Une appropriation
ça ne s'oppose pas.
Va à l'encontre.
Le problème, c'est la façon dont nous parlons. C'est-à-dire, est-ce que le « ou » est un « ou » exclusif ? Voilà. C'est le Christ ou l'Esprit. Et si c'est l'un, c'est pas l'autre. Mais quand même, la Trinité, c'est la communion des personnes. Donc on voit bien que la sagesse nous emmène vraiment dans la plus grande complexité qui soit pour exprimer à la fois ce que Dieu est en lui-même et à la fois son action dans l'économie. C'est pour ça que c'est compliqué. Voilà.
En fait, nous allons terminer avec la remarque du Père Lethel.
Qui sera très brève. Pour une fois. Non, je pense que ce que vous avez dit, c'est très, très intéressant. Donc, le fait que chez lui, le nom de sagesse est commun à toute la Trinité. Et donc, après ça, peut être approprié à l'unité des personnes. Alors, je pensais, il y a un appui patristique, un précédent très intéressant, c'est Denis l'Aréopagite.
Ben voilà.
Dans le traité des noms divins, où justement, Sophia, la sagesse, est un de ces noms communs à toute la Trinité.
C'est un nom commun.
Donc, je crois qu'on l'a parfois un peu oublié aujourd'hui. Et le Père Marie-Eugène le redit. Ça ne s'oppose pas du tout. Voilà.
Oui, tout à fait.
Comme sur d'autres paroles aussi, même dans le traité de la Trinité de Saint-Augustin, on voit très bien ce passage entre certains noms qui sont communs à toute la Trinité, qui ensuite peuvent être appropriés à lui, et puis certains qui sont absolument propres, comme le Verbe ou le Fils.
Tout à fait d'accord. Ce que j'ai simplement voulu souligner, c'est ce que veut dire nom divin, hein, à travers la Bible. C'est-à-dire, le nom, ce n'est pas la carte d'identité. Hein. Ce n'est pas Dieu, au buisson ardent, sort sa carte d'identité, la montre à Moïse. Voilà, je m'appelle, je suis celui qui suis. Bon, un peu compliqué. Mais que à l'intérieur de ce nom, il y a toute une ressource, il y a une énergie, il y a un dynamisme. Et c'est pour ça que sagesse convient, si vous voulez. Parce que la sagesse, c'était éminemment dynamique. C'est un mouvement. Elle est toujours en mouvement. Et vraiment, pour terminer, je crois que dans l'expression « la sagesse d'amour », en fait, c'est l'expression très ramassée de l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je crois que la formule elle-même dit la pensée du Père Marie-Eugène sur l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà.